RTVFM présente Faut qu'on en parle, une émission sur des sujets d'actualité et de société de notre territoire.
Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faut qu'on en parle. Ce mois-ci, nous allons parler de la restauration scolaire et de la régie agricole de Carpentras. Et pour en parler, nous recevons dans nos studios deux experts. Olivier Seyt, conseiller municipal de Carpentras, délégué à l'agriculture. Bonjour à vous.
Bonjour monsieur.
Ainsi que Yann Mancarelli, chargé de mission restauration collective durable. Bonjour à vous également et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Alors, ces messieurs, vous êtes dans le studio avec nous. On va donc débuter cette émission par une première question. Pourriez-vous nous dire ce que représente la restauration scolaire sur Carpentras, le nombre de repas, par qui sont-ils conçus, s'il y a des repas végétariens, des repas bio. J'aimerais que vous développiez un petit peu là-dessus sur ce sujet. Monsieur Mancarelli.
Donc la restauration scolaire de Carpentras, c'est quasiment 1600 repas par jour et voire 2000, quasiment 2000 repas le vendredi. Donc c'est une cuisine centrale qui prépare les repas chaque matin à partir de produits bruts et qui sont livrés dans une vingtaine d'écoles de Carpentras, plus un foyer de personnes âgées.
Donc 20 cantines qui sont concernées. Pourquoi plus de repas le vendredi ?
Jour de poisson, jour de marché aussi. Donc
les élèves restent un petit peu plus à la cantine.
Voilà, c'est ça.
Les repas, est-ce qu'ils sont élaborés par nutritionniste ou pas ? Quelqu'un élabore les repas au niveau de la cantine ? Oui.
En fait, c'est élaboré par notre chef gestionnaire. C'est toujours validé par une nutritionniste diététicienne.
Voilà, c'est important de le dire.
Voilà. Donc, ils sont validés après en commission avec nous.
Donc, c'est important de le souligner. Voilà, c'est fait en collégialement, une nutritionniste. Donc, toujours des repas très équilibrés. La cuisine centrale, c'est déjà quelque chose qui existe. Parce que tout à l'heure, on parlera de la régie agricole. La cuisine centrale sur Carpentras, c'est quelque chose qui existe déjà de très nombreuses années. Carpentras fait le choix depuis très longtemps d'avoir une cuisine centrale pour les cantines scolaires. Il n'y a jamais eu de demande de partir sur des sociétés ou autre. Il y avait déjà ce côté de vouloir cuisiner localement sur Carpentras depuis déjà de nombreuses années. C'est un choix qui avait été fait depuis longtemps.
On est très à cheval sur du manger local et manger bio surtout.
Oui.
Et plus on va aller, plus on va développer le manger bio sur la ville de Carpentras.
Voilà, puis la cuisine centrale, ça permet peut-être d'avoir une plus grande autonomie que de passer par des sociétés de restauration. Je pense que l'autonomie est un choix aussi particulier, d'avoir une certaine autonomie à ce niveau-là. Alors justement, le bien manger, le mieux manger, est-ce qu'il y a des repas bio et est-ce que vous avez un pourcentage ou est-ce que nous en sommes à ce niveau-là au niveau de la cantine scolaire de Carpentras sur le bio ?
On est à 35% bio, tout confondu par repas.
À noter aussi que on est depuis le début de ce mandat, on est certifié par EcoCert en cuisine,
oui.
Qui valide le bien manger en fait, qui valide le pourcentage de bio. Donc si on vous dit qu'il y a 35% de bio à Carpentras, ça a été validé par un audit, oui. Qui valide aussi toute notre démarche sur la restauration collective durable, sur le gaspillage alimentaire, sur le bio, le végétarien, la qualité des protéines. Qu'elle soit animale ou végétale. Donc voilà, tout ça, c'est validé chaque année. Et on a un tampon et on est au niveau 1 de cette certification.
Cette certification, on parlera après du gaspillage et de l'utilisation éventuellement des plastiques, parce qu'on parle beaucoup des plastiques, on en parlera juste un petit peu après. Alors concernant donc cet EcoCert, c'est un organisme qui le valide,
oui.
35%. Alors je sais qu'il y a on pourrait peut-être en parler un petit peu, là. Il y a une loi, c'est la loi Egalim, qui pousse un petit peu les collectivités locales depuis de nombreuses années, justement, à aller vers un peu plus de bio. Donc là-dessus, déjà en avance, bien fait en avance, il est dans les clous, on peut dire, sans aucun problème.
Oui, sur la loi Egalim, on est bien avancé, on est à 35%, et plus on va aller sur l'avenir, plus on va être sur le 100% dans quelques années.
Voilà, donc le but à atteindre, c'est la municipalité actuelle souhaiterait que ça aille jusqu'au 100% de bio servi dans les cantines au niveau de Carpentras. Ce qui est un gros défi, mais je suppose, M. Mancarelli, Carpentras peut le relever par rapport à ce qu'on parlera tout à l'heure.
Donc en fait, on se base aussi sur des exemples de collectivités qui progressent. Le but est de progresser dans le bio en coût constant sans que ça coûte plus cher à la collectivité. Et le levier principal pour arriver à cet objectif-là, d'augmenter la qualité en fait, du repas sans que ça coûte plus cher à la collectivité, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Mmh. À noter aussi, donc on est bien au-dessus de la loi Egalim, puisque la loi Egalim c'est 20% de bio, donc nous on est à 35%, donc on est bien au-dessus. Et les derniers chiffres de l'agence bio, en France, dans la restauration scolaire, on tourne autour de 7 à 8%. Donc la plupart des restaurations collectives en France, en fait, on est à 7-8% de bio. La loi Egalim impose 20%, donc on voit qu'il y a beaucoup de collectivités qui n'y sont pas, et Carpentras est largement au-dessus.
Carpentras est largement au-dessus. Alors, concernant le fait que Carpentras est au-dessus, on va parler du gaspillage alimentaire et de l'usage des plastiques. Alors, comment limiter le gaspillage alimentaire et quels sont les dispositifs que vous avez pu mettre en place dans les cantines pour justement limiter ce gaspillage alimentaire ?
D'abord, on a mis en place pendant une année, on a fait d'abord une diagnostic, parce qu'il faut partir, savoir de où on part d'abord. Oui. Donc, on a dans chaque école, à peu près pendant deux semaines, on a mesuré dans chaque école, donc il y en a une vingtaine d'écoles, on a mesuré pour savoir à peu près où on se situe au niveau du gaspillage alimentaire. De ce diagnostic, on a pu définir des actions. Et donc, sur l'année scolaire précédente, donc 2022-2023, on a mis en place des actions sur des écoles test. Donc, on a à la fois modifié notre façon de distribuer les repas. L'idée, c'est de bien prendre en compte l'appétit des enfants, en fait, et sur un principe, peut-être que certains auditeurs ou auditrices connaissent, petite faim, grande faim. En fait, c'est demander à l'enfant, est-ce que aujourd'hui, tu as un grand appétit ou un petit appétit, ouais. et l'inciter à goûter par justement une petite portion, et après l'inciter à venir se resservir pour avoir la bonne et s'adapter à l'appétit de chacun, en fait. Donc l'inciter à goûter. Après, des actions aussi visuelles avec un gâchimètre de pain, par exemple, pour avoir le visuel de qu'est-ce qui est gaspillé, surtout au niveau du pain. Et après, des petits jeux avec des images pour bien, par exemple, bien identifier qu'est-ce qui est du gaspillage ou non. Par exemple, un os de poulet, est-ce que c'est du gaspillage ou pas ?
Oui.
Voilà, non.
Tout ça sous forme de jeu pour arriver à...
Pour essayer d'éveiller les consciences des petits carpentraciens sur ce sujet du gaspillage alimentaire qui est fondamental.
Et les résultats, est-ce qu'ils ont été concluants ? Est-ce que les enfants se sont bien prêtés
à tout ça ? Du coup, avec ces actions-là et avec bien un rappel de faire bien attention au gaspillage, on arrive juste avec ça à diviser par deux le gaspillage dans l'assiette.
Ce qui est quand même énorme. Donc les enfants, en fonction de leur faim, et plutôt que de leur servir une grosse assiette et qu'ils ne la consomment pas, il vaut mieux qu'ils apprennent à redemander.
Voilà,
c'est de la pédagogie.
Voilà. Aussi. Après, voilà, avec des recettes, prendre en compte les recettes qui ne marchent pas, les améliorer, prendre en compte aussi le retour des
recettes qui ne marchent pas, parce qu'on va parler beaucoup légumes dans cette émission. On sait que souvent, quand on est enfant, les légumes, c'est quelque chose que l'on a tendance à... On est plutôt viande que légumes. Comment est-ce que l'on peut faire au niveau de la restauration scolaire, justement ? Qu'est-ce que les cuisiniers peuvent-ils apporter, leurs petites touches, et à quel niveau, pour que les enfants, justement, ils aient envie de consommer ces légumes ?
Je pense que le sujet de la régie agricole, la fraîcheur des légumes qui ont du goût, c'est un gros travail.
Le goût, la fraîcheur,
en fait. Donc une salade ou une tomate qui est cueillie à pleine maturité, surtout pour la tomate, et qui est servie quelques heures après, qui se retrouve dans l'assiette des enfants, ils se rendent bien compte que c'est pas la même salade ou c'est pas la même tomate que d'habitude. Et après, il suffit pas de pas grand chose en fait pour qu'ils aiment les.
Pour inciter l'enfant à aimer les légumes. Je voudrais revenir un petit peu sur l'usage des plastiques. Alors ça, c'est peut-être plutôt en cuisine, en arrière-plan, qu'il y a des efforts qui ont été sûrement effectués sur le décartonnage, les plastiques, sur comment ça se passe, parce que souvent les industriels, ils ont tendance, on le sait malheureusement, à amener trop de plastique ou autre. Qu'est-ce que vous avez pu faire, mettre en place dans les cantines pour limiter cet usage du plastique ?
Alors là, pareil, Carpentras est plutôt aussi en avance sur les sujets du plastique, puisque on a quasiment tout notre matériel qui est réutilisable. On a des bacs gastronomiques en inox, on a toute la vaisselle qui est réutilisable.
Voilà, les carafes d'eau qui sont en inox.
En inox.
Les corbeilles de pain qui sont en inox aussi, qui sont plus
en plastique.
En plastique.
Les produits souvent qui sont utilisés aussi, les lessives qui sont utilisées. Bon, on n'est pas dans du plastique, mais je pense qu'il y a aussi des efforts qui sont faits pour avoir des lessives beaucoup plus écolabelles.
On a un axe de progrès, plus utilisé d'écolabels aussi. On teste aussi des nettoyages vapeur. Il y a d'autres collectivités qui utilisent ce type de procédé. Donc ça, c'est aussi une...
Donc pas de vaisselle jetable.
Non.
Voilà, c'est banni dans les cantines de Carpentras.
Voilà, si vous. Par exemple, on va citer un exemple, par exemple le fromage, plutôt d'essayer on développe petit à petit du fromage à la coupe.
À la coupe.
Ce qui permet de limiter les emballages plutôt que d'avoir des
pré-emballés ou des portionnés. En tant que conseiller municipal, donc délégué à l'agriculture, quand monsieur le maire vous a approché pour vous proposer un mandat à ce niveau-là, qu'est-ce qui vous a particulièrement attiré ? C'est par rapport à votre vécu pour justement accepter ce poste d'élu ?
Ah ben moi, j'étais partant de suite, je n'ai pas réfléchi, je suis parti de suite, surtout sur le projet de la Régie agricole municipale, parce que nous sommes les premiers en Vaucluse à faire ce projet-là.
Oui.
Donc, en plus, on avait du foncier, on avait 6,60 hectares de foncier à nous, donc on n'avait pas besoin d'acheter de terrain. Et il suffisait d'embaucher un agriculteur municipal et c'était parti.
Tout cela, si vous le permettez, donc j'ai bien compris que vous aviez de suite répondu présent quand M. le maire est venu vous demander, justement, M. Sergent Drieux, de participer à cette expérience en tant que conseiller municipal, mais délégué à l'agriculture. Donc on va en parler un petit peu parce qu'on va bien développer sur la deuxième partie de l'émission, on va développer sur la régie agricole. Donc si vous le permettez, c'est peut-être dans cette logique du bien manger, d'une plus grande autonomie alimentaire que la régie municipale a vu le jour. C'est de cela dont nous parlerons dans la suite de Faut qu'on en parle avec nos invités après une courte pause musicale. On se dit donc à tout de suite, restez bien à l'écoute, on va parler de cette régie agricole juste après.
Yeah. Vous écoutez l'émission Faut qu'on en parle sur RTVFM.
De retour dans Faut qu'on en parle, consacré ce mois-ci à l'alimentation dans les cantines scolaires et plus particulièrement à la régie agricole municipale de Carpentras. Et pour en parler, nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités, Olivier Seyte, conseiller municipal de Carpentras, délégué à l'agriculture, ainsi que Yann Mancarelli, chargé de mission restauration collective durable. Rebonjour à tous les deux pour nos auditeurs qui prendraient juste en cours cette émission.
Rebonjour.
Alors nous venons de l'entendre, la municipalité de Carpentras s'est clairement engagée dans la voie d'une alimentation saine et équilibrée dans ses cantines depuis plusieurs années. Est-ce dans cette logique que la régie agricole a vu le jour? Parce qu'on va aborder là le gros du sujet, du thème, la régie agricole. Peut-être vous, monsieur Seyte, elle a vu le jour par rapport à cela, justement, par rapport à tout ce que l'on vient de dire, à tout ce constat, justement.
Elle a vu le jour parce qu'on a des terres déjà à notre disposition. La loi Egalim, parce que de plus en plus, il faudra manger bio dans quelques années, 100%. Et nous avons tout à disposition, de la terre, on a maraîcher, on a tout pour travailler, et il y a juste à faire pousser et à soutenir les enfants à manger frais tous les jours. Frais.
Alors tout cela, on va le développer, cette régie, mais l'idée du tout départ, c'est qu'il y avait un exemple ailleurs en France, ou c'est quelqu'un, à un moment donné, un élu qui a eu cette idée de se dire, tiens, c'est quand même dommage d'aller acheter des denrées qui coûtent relativement cher, est-ce qu'on pourrait pas regarder autour de nous, puisqu'on est quand même une région de maraîchers. Comment est-ce que vraiment c'est venu le petit déclic?
Le petit déclic, il est venu qu'il y a Montsartou, on a un contact qui s'appelle monsieur Gilles Perrol, qui a fait ce régie agricole depuis 10 ans.
Dans les Alpes-Maritimes.
Dans les Alpes-Maritimes, ouais. C'est ça. Donc on est allé sur place avec M. Mancarelli. On a discuté, on a essayé de voir un petit peu comment ça se passait. On a tiré un peu les verres du nez, on a regardé un petit peu tous les tuyaux qu'il y avait à faire. Ouais. Et on est revenu sur Carpentras et on a mis ça en place.
Et là, vous êtes réunis, vous avez dit, voilà, nous, on vient de voir quelque chose d'extraordinaire.
C'est ça.
Des gens qui sont en autonomie au niveau de la gestion donc, des fruits et des légumes. Et vous avez expliqué un petit peu de ce que vous avez vu.
C'est ça. Et on a fait une phase test sur 5000 m2 pour cette année.
Oui.
Fin d'hiver de cette année, début d'année prochaine, on monte des serres pour commencer la production sous serre.
Alors, on peut peut-être le préciser, ce terrain se situe à la Denove.
Oui.
C'était un legs. Que Carpentras était propriétaire depuis de très nombreuses années.
C'est ça.
C'est des terrains qui étaient en friche, mais des anciennes cultures, c'était cultivé à l'époque.
Oui, il y a eu des pêchers, il y a eu des vignes. Après, c'était en jachère pendant quelques années par un maraîcher sur Monteux, qui s'en est plus occupé par la suite. Donc, on a récupéré les terres, elles sont restées quelques années en friche, et c'est de là qu'on a pris la suite.
Donc, des terres irriguées, irrigable, enfin que l'eau, je pense qu'il y a l'eau du canal, si oui, je ne dis pas de bêtises, il y a un petit cours d'eau.
Il y a l'eau du canal, on a découvert même une source en plein milieu de la régie agricole qui passe.
Oui.
Et on a une rivière qui passe à l'opposé, au nord. Donc on a tout pour travailler en fait, on a le couteau et on a tout pour travailler.
Alors quand on a tout pour travailler, comme vous le dites, avec les terres nécessaires, il faut maintenant trouver un maraîcher, quelqu'un qui puisse justement cultiver, un cultivateur, comme on l'appelait à une certaine époque. Alors là, comment ça se passe? Vous avez ces terres donc, Carpentras, l'idée ça y est, ça suit son cours, vous avez le projet, vous voulez qu'il avance, et là vous vous êtes mis sûrement en quête d'un maraîcher, de quelqu'un qui puisse cultiver ces terres.
C'est ça, on a recherché un maraîcher sur le secteur,
oui.
Et on a eu M. Dijon qui est de Pernelfontaine, qui a postulé au poste.
Oui.
Et qui nous a convenu, et depuis on travaille avec lui.
Alors ce poste justement qui n'existe pas dans la fonction publique territoriale, sur le moment ça a dû être quand même administrativement quelque chose d'arriver à créer un poste, puisque c'est une première, parce que de créer ce poste-là de maraîcher municipal.
Oui.
Là il a fallu voir administrativement les possibilités. Donc ce maraîcher, il a eu une fiche de poste, je suppose.
C'est ça.
Avec pour démarrer, comme vous le dites, un test sur une parcelle d'une certaine grandeur.
Sur 5000 m2.
Et là, il a attaqué à partir de quel moment? Donc, c'est la première fois qu'il a commencé à produire. C'était cette année ou l'année dernière?
Début de cette année. Donc, on a commencé à planter des tomates, des salades, des butternuts, des courgettes. Sur la courgette, ça n'a pas été très bonne expérience. Bon, on se rattrapera la prochaine fois.
Bon, après, de toute façon, ça démarre.
C'est ça.
Vous étiez, je suppose, là aussi très investi, toujours pareil, dans ce choix. Alors, dans le choix de culture, de cultiver, justement, il y a une étude qui a été faite de sol pour savoir ce que l'on pouvait, je suppose, cultiver ou pas.
On s'est fait accompagner dès le départ par AgriBio 84, qui est le réseau des agriculteurs bio. Du Vaucluse.
Oui, parce qu'on le reprécise pour nos auditeurs, c'est du bio, du 100% bio.
Oui, donc comme l'a dit Olivier, en fait, les terres étaient en friche depuis un certain nombre d'années, ce qui nous a permis de faire dès le départ ce qu'on appelle un constat de friche. Oui. Et de ne pas avoir le délai de conversion qu'on a normalement quand on récupère une terre conventionnelle. Pour la transformer et pour la certifier en agriculture biologique, il faut attendre 3 ans normalement. Et là, le fait qu'elle n'ait pas été cultivée, et de toute manière, c'était un maraîcher bio qui était avant, on a pu faire un constat de friche. Et du coup, les premiers légumes, dès le départ, qui ont été cultivés cette année, récoltés et consommés par les enfants, sont 100% bio.
100% bio. Et donc le choix des cultures, comment
donc
ça s'est
fait ? Donc en fait, là, c'est une coordination en fait, avec la cuisine, puisqu'en fait, on part des... C'est là où le projet est aussi intéressant, c'est qu'en fait, on part des mangeurs, en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de manger, en fait ?
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on avait envie de manger ? Ben, comme l'a dit Olivier, ben, des bonnes tomates qui ont mûri sur le pied, qu'on récolte à pleine maturité, des salades fraîches, des butternuts, et récemment on a fait un menu 100% Ventoux, on a fait un tiens de butternuts. Mmh. Donc là, on a pu proposer à nos 1600 enfants un tiens de butternut avec une butternut qui a été cultivée. Juste à quelques kilomètres de là où ça a été consommé.
Justement, on parle de circuit court. Là, on est vraiment sur du circuit court.
Ah oui, c'est de l'ultra
court. Il y a moins de 10 kilomètres, je crois, entre les deux.
Hein. C'est du champ à l'assiette. Hein.
C'est du champ directement à l'assiette. Au niveau des fruits, est-ce que là aussi, il y aura quelque chose qui va être fait ? Est-ce qu'il y a possibilité dans ces terrains de planter des fruits, des fraises ? Parce que Carpentras, capitale de la fraise.
Si on n'a pas de fraise à Carpentras, on n'est pas bon. Hein.
Donc la fraise carpentrassienne, vous l'avez testée cette année ? Vous allez la tester par la suite ?
On va le faire par la suite. Fraise, melon, pastèque. Et on a une parcelle qui est détachée où on va mettre quelques arbres fruitiers.
Donc on est dans de la biodiversité, terres qui sont, comme vous l'avez expliqué, qui étaient depuis longtemps, qui n'étaient plus en agriculture conventionnelle. Donc je suppose des terres très riches également.
C'est ça.
Voilà. On parlait de la courgette, c'est des tests, mais ça parce que voilà, après il faut arriver petit à petit à trouver les bonnes cultures qui poussent au bon moment.
Et puis c'est bio, donc il y a des insectes, on n'a pas de produits, donc des fois on a des surprises.
Ah oui, c'est sûr.
Des fois, on a les chenilles, des fois, on a quelques bestioles qui viennent nous ravager, et des fois, on a des sangliers qui nous ont mangé quelques. quelques centaines de salles quand même, donc bon, ça fait partie de...
C'est pas rien.
Ça fait partie des aléas, et donc au-delà du bio, on est même, on a des produits qui sont autorisés en bio, mais nous, on n'utilise aucun traitement.
Aucun traitement.
Donc ça aussi, c'est un gage de qualité et de santé pour nos enfants, parce que derrière, il y a aussi la santé, y a la santé derrière ce projet.
Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, l'accueil, parce que vous avez pu avoir l'accueil de cette pleine production l'été pour le centre de la Denove, les centres de loisirs de la Roseraie. Comment les enfants, est-ce qu'ils l'ont accueilli ? Est-ce qu'ils ont fait une différence ? Est-ce que vous leur avez expliqué justement d'où vous provenez les légumes ? Est-ce que vous leur avez fait un petit peu de pédagogie à ces jeunes pour leur dire, voilà, on ne l'a pas acheté à 800 km, mais c'est produit localement. Est-ce que vous avez eu l'occasion
Sur les premiers services, on a expliqué aux enfants d'où venaient les légumes. Après, on a aussi communiqué. On a fait j'encourage aussi les auditeurs à aller voir. On a fait deux vidéos qui ont été produites par le service communication en interne, qui se trouve sur le site de la ville. Donc, j'invite aussi les auditeurs à aller voir ces vidéos. Et là, c'est le projet pour l'année prochaine, vraiment d'accentuer l'action pédagogique. Parce que c'est, au final, ce projet, ce n'est pas que produire des... des bons aliments et des bons légumes pour les carpentraciens et carpentraciennes, mais c'est aussi amener les enfants sur le champ et pour pouvoir faire des actions, soit de plantation, de récolte. On a aussi, vous l'avez vu, qui est un sujet de biodiversité, et sur ce sujet-là, on veut réimplanter des haies et des arbres, et donc là aussi, on aimerait impliquer les enfants dans la plantation des arbres.
Je suppose que le terrain va évoluer, donc 6 hectares et demi. Il y a peut-être des constructions qui peuvent être faites pour abriter aussi le matériel, des choses que le terrain va être un petit peu aménagé au fur et à mesure.
Pas pour l'instant, parce qu'on est sur la ville de Monteux.
D'accord.
Là, ce qu'on a fait...
Bon, je parle de construction, je parle de hangar éventuellement pour abriter le matériel. C'est
on attend les autorisations, là, mais pas pour l'instant. On a acheté des bacs maritimes qu'on a aménagés en bois. Comme ça, on ne voit plus du tout le bâtiment.
Le bâtiment, voilà, pour quelque chose
dans le fond, qui s'intègre. Ça se fond dans le paysage.
Qui s'intègre totalement. Donc on l'a compris aussi, se diriger vers 100% de bio, être en autonomie totale, au niveau total, où vraiment s'y rapprocher le plus possible. Parce qu'il y a des fruits et légumes, effectivement, qui ne sont pas produits, qu'on ne peut pas produire ici. Mais se rapprocher le plus possible d'un pourcentage élevé.
Oui, la cible, c'est plutôt aux alentours des 80%.
Les 80%,
voilà. Ce qui est et quand même, compléter, ce qui est quand même, justement compléter après avec des agriculteurs du coin la production qui nous manquera.
Oui, continuer, c'est là-dessus que je voulais poser la question. Le complément, éventuellement, la possibilité de le faire sur les agriculteurs qui sont les agriculteurs locaux.
Oui.
Agriculteurs locaux.
Bio et locaux.
Bio et locaux.
Mais Carpentras peut être fier du projet parce que même on a des très bons retours des parents d'élèves. On a des bons retours de tout le monde, on n'a que du positif. Donc je pense que ça va être un projet exceptionnel. D'ailleurs, c'est le plus beau projet du mandat. Surtout que M. le maire Saint-Gendrieux me donne carte blanche et c'est Monsieur le maire ne contrôle pas. On est carte blanche et on est ouvert à tout. Hein.
D'accord, mais qu'est-ce que je pourrais vous rajouter de plus? Qu'est-ce que vous pourriez, vous, éventuellement, rajouter de plus sur ce magnifique projet? On vient de vous entendre, Monsieur Seyt, que c'était vraiment une priorité, on le sait, de Monsieur le maire et des élus dont vous faites partie, de créer cette régie agricole. Mais ça fait déjà maintenant un an, la première récolte, du moins, a eu lieu vraiment cet été. Mais peut-être, moi, j'ai oublié de vous rajouter...
Le temps passe vite, hein, parce que ça fait 2 ans et demi, il y a des élections. Hein.
Oui, c'est ça. Par contre, la question que je voulais rajouter, c'est... Parce que certains peuvent se la poser, se dire, mais la pleine production, c'est l'été, les enfants ne sont pas à l'école. Qu'est-ce que l'on fait justement de cette production pour qu'elle puisse ne pas être gaspillée et qu'elle puisse se servir dans l'hiver? Il y a donc une procédure, un procédé peut-être pour la récolte d'été.
Voilà, bon, l'idée quand même de départ, c'est vraiment de manger de l'ultra frais. Ouais. La priorité, c'est quand même de manger des légumes qui soient récoltés, qui soient le plus rapidement dans l'assiette entre le moment de la récolte et la consommation. Et effectivement, on se dit effectivement la pleine production, c'est juillet-août. Juillet-août, il n'y a pas école. Donc on a quand même 2 centres de loisirs qui sont ouverts, donc celui de la Roseraie et celui de la Denove, ça c'est l'été. Donc ça fait quand même aux alentours d'entre 400 et 500 repas par jour quand même. Et donc la solution qui est envisagée à moyen terme, c'est d'investir dans un surgélateur. Et donc faire nos propres surgelés, donc nos propres légumes bio et locaux surgelés.
Surgelés, voilà.
Voilà. Et donc ce qui garantit, en fait, c'est le processus le plus, entre guillemets, simple à mettre en œuvre au niveau de la sécurité aussi alimentaire. Voilà. Et on s'appuie aussi sur l'exemple de Mohan Sartou qui a mis ça aussi en place et qui, a priori, ça fonctionne très bien. Et donc, ça permet aussi d'éviter aussi... Donc, il y a la pleine production, mais aussi, ça permet aussi d'éviter la lassitude aussi des convives, puisque, voilà...
L'hiver, c'est beaucoup les choux. Voilà,
L'hiver, choux et patates, à mon avis, au bout d'un moment, ils vont s'enlacer. Donc, c'est aussi proposer aussi un peu des légumes hors saison.
Hors saison.
Voilà, tout au long de l'année.
Mais en tout cas, merci Olivier Seyt. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal de Carpentras, délégué à l'agriculture. En tout cas, merci de nous avoir fait part de ce magnifique projet qui va évoluer, on l'a bien compris, qui va continuer à grandir, puisque c'est le but.
Et j'espère que ça va donner des idées à d'autres communes.
À d'autres communes, c'est le but aussi. Et merci également à Yann Mancarelli, chargé de mission restauration collective, à tous deux d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé un petit peu plus, même si, encore une fois, on peut le redire, il y a 2 belles vidéos qui sont sur le site de la ville de Carpentras, qui expliquent très bien le fonctionnement de la régie agricole. Mais voilà, en tout cas, on en a appris un petit peu plus sur la restauration collective. Merci messieurs, et à très bientôt.
Merci
au revoir.
Au revoir.